Chapitre 4. Lorsqu'elles furent de retour à Meudon, Trémolo reconduisit Denise à la boucherie. En sortant, elle murmura : Oh, cette pauvre petite va tomber malade, bien sûr. Elle est trop faible, d'une trop mauvaise santé, pour supporter tant de secousses. Mais non, elle se trompait. La fièvre surexcitait la botte et lui tenait lieu de force. Maintenant, qu'allait-elle faire, l'infirme? Tout espoir était-il perdu? Fallait-il laisser Loriot sans secours et la justice commettre sur lui cette épouvantable erreur? Ah non, elle ne perdait pas courage. Elle s'accrochait désespérément à toutes les idées qui lui venaient, jusqu'à ce qu'arrivée au moment de les mettre à exécution, elle les reconnut elle-même impraticables. Ce qui lui donnait de l'énergie, c'était la présence dans un coin de la chambre de sa mère sombre et les yeux brillants, de la vieille Justine ensevelie dans son éternelle immobilité de paralytique. C'était à elle qu'elle avait eu recours en dernier lieu, quand elle avait vu tout lui échapper. Elle s'était mise aux genoux de cette morte vivante, l'avait suppliée en lui racontant ses angoisses et l'horrible danger qui menaçait Loriol et les infructueuses tentatives qu'elle avait faites auprès de M. de Valmar et de M. Ferrand. Mais rien, la vieille n'avait rien répondu. Deux fois elle avait essayé pourtant. Ses grands yeux noirs étincelaient avec un éclat extraordinaire qui effraya Nabot. Ses lèvres ouvertes avec effort prononcèrent quelques mots, une phrase qu'on ne put comprendre, et puis, affaiblie par cet immense effort, elle était tombée dans un profond sommeil. Ses yeux seuls avaient laissé deviner toutes ces épouvantes. Ah, s'ils avaient pu parler, comme ils auraient tout dit. Et pourquoi ne parlerait-il pas, se dit Nabot. Elle alla chercher un livre et expliqua à sa mère ce qu'elle voulait. Au hasard, elle lui montrerait, chacune en particulier, toutes les lettres de l'alphabet. Avec ces lettres, il serait possible de former une phrase. Si la paralytique, en abaissant la paupière, fixait ainsi sur la lettre qu'elle désignait l'attention de sa fille. Ce serait long, car il faudrait attendre que Denise rencontrât les lettres qui, dans la pensée de la malade, devaient constituer un mot d'abord, des phrases ensuite. « Ma mère, dit-elle, vous n'avez jamais eu l'intention de laisser mon frère porter la peine de votre crime. » La paralysie qui vous a frappé vous a sans doute empêché de sauver Jacques en vous réduisant à une impuissance complète. Mais si vous avez conservé toute votre intelligence, il ne vous sera pas impossible d'exprimer votre pensée de la manière que je vous indique. Vous n'avez rien à craindre de la justice en l'état où vous êtes. Vous pourrez donc être bien franche et ne rien cacher de ce que vous avez fait. M'avez-vous comprise? M'avez-vous entendue? Si vous avez bien saisi ma pensée, fermez les yeux pendant quelques secondes et ne les rouvrez que lorsque je vous l'aurai dit. » La paralytique obéit instantanément. Un instant s'écoula. Nabot ne respirait plus. « Ouvrez-les maintenant. » Justine obéit de nouveau, et son clair regard, animé d'une lueur singulière, alla fouiller l'âme de sa fille. « Ah ! » dit celle-ci, « Jacques est sauvé. » Elle appela le petit Pierre qui ne la quittait pas. « Va prier, monsieur Consola, le commissaire de police, dit-elle. De venir à la boucherie sans perdre une minute. Et s'il me demande pourquoi, Oh, tu me diras qu'il s'agit d'une affaire très importante, de révélations à entendre, d'un innocent à sauver. Oh, dis-lui ce que tu voudras, petit Pierre, mais va, cours vite, et surtout ne t'arrête pas à jouer en chemin. Pierre était déjà parti. C'était le soir. Les journaux venaient d'arriver de Paris. Depuis la condamnation de son frère, elle les lisait tous les jours, attentivement, cherchant dans la colonne des faits divers, avec des battements de cœur si douloureux qu'il la suffoquait et l'obligeait de s'arrêter. Si l'on parlait de Jacques, s'il était question du pourvoi en cassation, du recours en grâce, et enfin, chose atroce, de l'exécution. Elle savait, on le lui avait dit, que le recours en grâce prendrait plusieurs jours. Mais chaque minute qui s'écoulait la rapprochait du moment fatal. La veille, justement, elle avait eu une douleur aiguë qui lui traversant le corps comme une flèche avait failli la faire mourir. Elle avait acheté 4 ou 5 journaux, La France, Le Temps, Le National, Le Soir. Or, le premier qu'elle avait parcouru, La France, annonçait pour le lendemain, dès l'aube, l'exécution du boucher de Meudon. Oh, ça avait été une souffrance abominable. Heureusement, les autres journaux la tranquillisèrent. Le National et Le Soir n'annonçaient rien, et Le Temps publiait en dernière heure la courte note suivante. L'exécution de l'assassin de Charlotte Gélibert n'aura pas lieu demain, contrairement à ce qu'annonçaient hier plusieurs journaux. Le président de la République n'a pas encore pris de décision sur le recours en grâce. Le bruit court, toutefois, que M. le maréchal de MacMahon quittera Paris cette semaine pour s'en aller chasser dans le Loiret, où il a sa maison de campagne. C'est donc cette semaine, assurément, que Jacques Loriot connaîtra le sort qui lui est réservé. Elle avait relu 2 fois cette note d'un reporter indifférent. « Cette semaine, se disait-elle, cette semaine !» Et l'on était au mercredi. Le lendemain matin, elle avait acheté le petit journal. Elle le dévorera depuis la première ligne jusqu'aux annonces. Dans un coin, elle découvrit les quelques mots suivants qui la firent frissonner et lui amenèrent au front une sueur froide. « Monsieur le Président de la République, qui ne devait partir qu'à la fin de la semaine, hâte son voyage de 2 ou 3 jours et quittera Paris cet après-midi par le train de 3h50. Il restera absent 15 jours. Alors, s'il partait, c'est que Loriot était gracié ou perdu. Elle avait passé la journée dans un abattement mortel. À chaque moment, elle se demandait « Mais que vont m'apprendre les journaux du soir ?» C'est dans l'après-midi qu'elle fit auprès de sa mère sa dernière tentative. Et c'est dans l'après-midi que lui vint cette idée de l'alphabet avec laquelle il était possible de parler à l'intelligence de Justine. Mais il fallait pas perdre de temps cette fois. Et pour que les révélations qu'allait faire le paralytique ne fussent pas perdues, elle avait envoyé le petit Pierre à la recherche du commissaire de police. Quelques minutes après le départ de l'enfant, un crieur passa, annonçant d'une voix monotone la kyrielle des journaux qu'il vendait. « Voilà le journal, voilà le journal, voilà la liberté, la presse, l'estafette, le temps, le national, la France, voilà le journal !» Elle acheta tout ce qu'il avait. Ah, mademoiselle Loriot, dit le marchand, il y a des nouvelles pour vous. Elle alla s'asseoir dans un coin auprès de la table sur laquelle il y avait une lampe et se mit à lire avidement. La nouvelle donnée par le petit journal était vraie. Le président de la République était parti pour son château de la Forêt et avant de partir, il avait repoussé le recours en grâce de Loriot. Elle ne pouvait plus avoir de doute là-dessus. Tous les journaux étaient d'accord. Et le temps, toujours en dernière heure, mettait cette petite phrase laconique et cruelle. Nous croyons pouvoir affirmer que l'exécution du boucher de Meudon ne sera pas retardée davantage et qu'elle aura lieu demain à la pointe du jour. Nous en rendrons compte dans le numéro qui portera la date de jeudi. Ainsi, c'était pour le lendemain. Son regard s'attachait au journal comme si elle eût voulu saisir entre les lignes un sens qui lui échappait. En se relevant, ses yeux rencontrèrent ceux de Justine. Et Nabot dit avec un accès de fureur : Mais c'est pour demain, entendez-vous, pour demain, quand le jour paraîtra. Encore quelques heures, et Loriot sera guillotiné pour expier le crime que vous avez commis. Certes, la vieille comprit, car sur son visage, si blême qu'il ressemblait au visage d'une morte, s'épandit une pâleur verdâtre. Ses lèvres s'agitèrent comme pour prononcer des paroles, et un de ses bras remua. Puis ce fut tout, et ses regards restèrent obstinément fixés sur un coin de sa robe brune, la même qu'elle portait le jour des assises. Et le petit Pierre qui ne revenait pas. Mais qu'attendait-il donc? Est-ce qu'il aurait rencontré des gamins et qu'il se serait mis à jouer, malgré la recommandation pressante de Denise? Il était parti depuis plus d'une demi-heure. Et Denise restait auprès de sa mère, aussi immobile qu'elle, silencieuse comme elle, sa tête brûlante entre les mains. Enfin, elle entendit un bruit de pas précipité dans la rue. La porte s'ouvrit avec une violence et Pierre entra. « Eh bien !» dit l'infirme. L'autre, essoufflé, ne pouvait dire un mot. Il fallut attendre. À la fin, « Mais c'est pas ma faute si je suis resté aussi longtemps. Le bureau du commissaire de police était fermé. Heureusement, j'ai rencontré un sergent de ville qui m'a conduit chez M. Consola. » Alors là, on m'a dit que M. Consola venait de partir pour Paris, où une dépêche l'appelait. Il rentrera dans la soirée, peut-être dans la nuit, mais à quelle heure, voilà ce qu'on ignore. Mais c'est où il est à Paris, au palais de justice ou à la préfecture de police. Le connais-tu, M. Consola? Ah oui. Mais tu l'as déjà vu? Oh dame, il m'a tiré les oreilles plus d'une fois. Et un jour, j'avais cassé les carreaux à la mer du Flot. Miss Nabot ne le laissa pas continuer. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas, petit Pierre? Oh, Denise, fit l'enfant avec reproche. Tu veux bien me faire un plaisir, me rendre un service? Oui, je veux tout ce que vous voulez. Tu vas te rendre à la gare de Meudon? Oui, tout de suite. Tu attendras l'arrivée de tous les trains de Paris. J'attendrai, je ne bougerai pas d'une semelle. Tu guetteras, M. Consola. Bon. Et quand tu le verras, tu l'accosteras. Et je lui dirai. Et qu'il faut qu'avant de rentrer chez lui, il vienne à la boucherie, que je le demande et que j'ai à lui parler. Je ne l'oublierai pas. Tu as bien compris. Certes. J'ai pas besoin de te le répéter, ces instructions. Non, 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 je vous promets que la commission sera faite. Tu t'éloigneras pas de la gare pour jouer, je vous le jure. Alors va, mon enfant. Petit Pierre partit, toujours courant. Il ne marchait jamais. Si Monsieur Consola ne revient pas, se dit Nabot, Jacques est perdu. Il faisait une froide soirée d'automne. Une bise aiguë sifflait dans la rue des Princes avec des gémissements plaintifs. 2 heures se passèrent. Il était 6 heures maintenant. Que le commissaire tardât encore, et bientôt il ne serait plus possible d'aller à Paris. On ne trouverait plus personne, et qui alors serait assez puissant pour empêcher l'exécution? Cette pensée la faisait frémir. Tout à coup, la porte s'ouvrit, et si brusquement que Nabot, surprise, poussa un cri. C'était le petit Pierre. « Me voilà, dit-il, j'ai trouvé M. Consolat. » Il a refusé de te suivre ? Mais non, au contraire, il n'a même pas pris le temps de passer chez lui. Je suis arrivé avant lui parce que je courais. Oh mon Dieu, qu'il vienne, qu'il vienne !» Presque au même instant, M. Consolat entrait. Il salua Denise et, sans s'asseoir, demanda « Vous avez besoin de moi ? Que se passe-t-il ? Oh, monsieur le commissaire de police, aurons-nous le temps ?» Et Denise, en quelques mots, raconta à l'officier de police les tentatives qu'elle avait faites auprès du juge d'instruction et du procureur général. Comme cette confession et les détails qu'elle donnait ne pouvaient être racontés devant Justine, dont ils eussent renouvelé l'atroce douleur, l'infirme avait pris à part M. Consolat et l'avait emmené dans le cabinet qui lui servait de chambre à coucher. Tout d'abord, elle se heurta à l'incrédulité du commissaire quand elle lui redit l'aveu pénible qu'elle avait fait au procureur général. Mais la botte s'y attendait. Son expérience avait été mise à l'épreuve deux fois. Elle ne se laissa pas décourager. « Oui, continua-t-elle avec une énergie croissante, on ne m'a pas cru quand j'ai dit que Charlotte Chélibert avait été assassinée, non par Jacques, mais par ma mère. On m'a répondu « Apportez-nous des preuves !»« Mais je ne vous demande, moi, pas même autre chose. Mais ces preuves, je les ai, je vous les apporte. »« Ah !» fit le commissaire de police étonné. Et quiconque l'eût attentivement observé eût découvert que, dans cet étonnement toujours incrédule, la vanité et l'amour-propre mettaient beaucoup de contrariété. C'était lui, en effet, qui avait découvert les premiers indices du crime. Si ce que prétendait la botte était vrai, c'était lui qui avait égaré la justice en la mettant sur une fausse piste. C'est une erreur que la préfecture de police ne pardonne guère à ses agents et que la magistrature, elle, ne pardonne jamais. Consolat le savait. Il s'agissait donc, l'esprit prévenu contre ce qu'elle allait dire, Venise. « Mais ces preuves, où sont-elles » demanda-t-il. « Venez, » dit Nabot. Ils rentrèrent dans la boutique où était Justine. « Ce n'est pas moi qui vous raconterai ce qui s'est passé, » dit l'infirme. « Et qui donc ?»« C'est ma mère elle-même. »«
Elle parle ?»«
Non, mais elle se fait comprendre. »
Denise avait une assurance qui inquiétait Consolat. Mais l'instinct de la justice, le devoir à remplir, devait être bientôt plus fort que ses dernières hésitations. Et puis, l'étrangeté de la situation le frappait. Malgré lui, il était intéressé, alors qu'il ne croyait pas encore, qu'il doutait toujours. Nabot expliqua comment il pouvait interroger Justine et comment celle-ci répondrait. Le commissaire de police prit un livre, l'ouvrit, le plaça devant les yeux de la paralytique et la regardant bien en face, « Me comprenez-vous ? Savez-vous ce que je veux ?» Elle dit oui en fermant les paupières et en les rouvrant. « Est-il vrai que vous avez assassiné Charlotte Gélibert ?» Elle fit le même signe. « Oh, je ne puis me contenter de cette seule affirmation. Et je ne vous cacherai pas que je la crois dictée par votre affection pour Jacques Loriot et le désir que vous avez de le sauver. » Dans l'état très grave où vous êtes, la justice ne peut rien contre vous. Et il n'est pas impossible que vous profitiez de cette situation extraordinaire pour empêcher votre fils de subir la peine à laquelle il est condamné. Donc, je vous préviens, un simple aveu ne me suffit pas. Il serait impuissant à détruire les preuves qui se sont élevées contre Loriot. Il serait impuissant même à en amoindrir la valeur. C'est donc un récit circonstancié du crime que je vous demande. Je resterai libre d'apprécier ensuite si les détails que vous m'avez fournis concordent avec les indices que j'ai relevés moi-même. » Alors commença l'étrange récit de Justine. Le commissaire de police indiquait dans le livre des syllabes ou des mots que la vieille soulignait d'un signe des paupières. Cela fut long, mais M. Consola, invinciblement retenu, ne manifesta point d'impatience. Et voici ce qu'avoua Justine. « Mon fils n'est pas coupable. C'est moi qui ai assassiné Charlotte Gélibert d'un coup de bâton. Je ne voulais pas la tuer, mais je la haïssais. Je ne voulais pas qu'elle fût la femme de Jacques. Je le lui avais dit à elle et aussi à Jacques. J'avais prévenu Charlotte, mais toutes les deux y m'ont trompé. Ils m'ont résisté. Ils se cachaient de moi pour le rendez-vous. Ce qu'a dit Jacques de son bœuf est vrai. Charlotte me l'a raconté en revenant à Meudon. Jacques n'est rentré à la boucherie que vers 11 heures du soir. Dans ma première déposition, j'avais dit 8 heures ou 9 heures, mais je mentais. C'était pour qu'il ne fût pas inquiété, je croyais lui être utile. C'est moi qui ai tout fait et Loriot n'a rien su. J'ai traîné le cadavre dans la campagne et je l'ai caché dans une meule. Le lendemain, les agents m'ont surprise au moment où je découvrais une jarretière de Charlotte dans un buisson du jardin. C'est que je voulais détruire les indices. Quand Loriot a été pris, je n'ai osé rien dire sur le moment, parce que je craignais d'être arrêté, et puis il me paraissait certain que mon fils ne serait pas condamné, que jamais il n'y aurait assez de preuves et qu'on allait le remettre en liberté. Alors j'ai attendu, espérant toujours. Ici, la vieille ne fit plus aucun signe. « Elle est fatiguée, » dit Nabot. « Laissez-la se reposer. »« Soit, » dit le commissaire. « Êtes-vous convaincu, monsieur ?»« Oh non !» Denis pâlit et d'une voix altérée. « Mais que faut-il donc encore ?»« Bien, je vous l'ai dit, monsieur de Valdemar et monsieur de Fernand, avant moi, vous l'ont répété. » L'aveu ne suffit pas. Il faut des preuves. La paralytique les regardait attentivement, et son regard, après s'être porté sur eux, s'abaissait avec une sorte d'obstination sur un des coins de sa robe qu'il ne quittait plus. Consola suivait le jeu de sa physionomie. Mais sommes-nous désignés quelque chose, dit-il. Interrogez-la, fit Nabot. Et de nouveau, Consola reprit le livre. Avez-vous encore quelque chose à me dire? Les paupières de la vieille s'abaissèrent à plusieurs reprises avec une vivacité fébrile, et dans le regard qu'elle fixait sur Consola, il y avait une telle angoisse qu'on ne pouvait s'y méprendre. Cette fois, elle ne dit que quelques mots. 5 ou 6 jours avant la condamnation de Loriot, j'ai écrit l'aveu complet de mon crime, avec tous les détails et les motifs de la haine que m'inspirait Charlotte. Ce récit, je l'avais avec moi à la cour d'assises. Et je voulais, si Loriot était condamné, le faire parvenir tout de suite au président et aller me jeter dans la Seine. La paralysie ne m'en a pas laissé les moyens. Je n'ai pu envoyer ma lettre. Le commissaire de police était troublé. « Que dit-elle ? » demanda Nabot, qui suivait sans la bon comprendre et avec anxiété cette scène bizarre. Mais Consola ne répondit rien. « Où est cette lettre ? » dit-il à la paralytique. Les paupières de Justine s'abaissèrent, mais Consola ne comprit pas. Il interrogea de nouveau. « Où est cette lettre? Où est-elle? Répondez avec le livre !» Et hâtivement, son doigt désignait des lettres. « Pour ne pas l'égarer, fit Justine, je l'avais cousue dans le bas de ma robe, c'est là qu'elle est. Mais les efforts gigantesques qu'elle faisait depuis une heure avaient dompté les derniers restes de son énergie. » Sa tête s'abaissa sur sa poitrine, ses yeux se fermèrent, sa bouche se détendit, une pâleur cadavéreuse s'épandit sur son visage, et elle resta dans une immobilité de statue. Le commissaire de police s'était jeté à genoux, et ses deux mains tremblantes tâtaient les coins de la robe de Justine. « Ah oui, bégaya-t-il, la voilà, je la sens !» Nabote, penché sur lui, le dévorait des yeux. « Des ciseaux, vite, des ciseaux » dit-il. Et quand il les eut, il coupa d'un coup le coin de la robe. La lettre, une large feuille de papier écolier, pliée en deux dans une longue enveloppe, s'échappa de l'étoffe. Nerveusement, il la décacheta et la parcourut d'un trait. Elle était adressée, en effet, au président des assises. Justine y racontait son crime, longuement, minutieusement, et expliquait cette haine de Charlotte qui avait paru incompréhensible au procureur général. Il ne pouvait plus exister pour elle d'amour-propre ou d'orgueil, ou de remords ou de pudeur. Il fallait bien dire pourquoi elle avait avoué à sa fille du fermier Gélibert cette aversion mortelle. Il fallait bien raconter cette triste histoire de ses amours coupables avec le fermier des quatre chemins, et l'abandon qui les avait suivis, et la ruine de Gélibert, son départ pour l'Amérique, et l'installation de Justine à Meudon, et l'arrivée de Charlotte, et sa rancune contre la fille de son ancien amant, encore arrivé par l'amour qui se déclarait chez Loriot. Elle racontait tout, ne passant rien, appuyant sur les détails en apparence même les plus insignifiants. Elle disait aussi pourquoi elle avait hésité à se livrer jusqu'au dernier moment et pourquoi elle écrivait cette lettre. Elle ne voulait pas survivre à ce crime et en attendre la punition. Le commissaire de police essuya son front qui ruisselait de sueur. Nabote le guettait, les yeux rivés sur son visage. Et à voix basse, se parlant à lui-même, « Mais quelle est cette lettre ?» Il la lui donna. Quand elle l'eut parcourue, « Et maintenant, dit-elle, me croyez-vous ?» Le commissaire de police, très grave, « Mademoiselle, dit-il, je vous demande pardon à vous et à votre Jacques Loriot, votre frère. Est-ce que vous le sauverez, au moins ?» Consola ne répondit pas. Nabote eut un grand cri. « Serait-il trop tard ?»« Je l'ignore, mais tout ce qui sera possible à un homme de faire, je le tenterai. Mon devoir m'y oblige d'abord. Ensuite, c'est moi qui dois le premier commencer la réparation de l'épouvantable erreur que nous allions commettre là. » Il était très ému. « Mais l'exécution doit avoir lieu demain, à la pointe du jour, » dit Nabote, « et la soirée s'avance. Malheur !»« Mais qu'allez-vous faire ? » ?»« Voir le procureur général et faire suspendre l'exécution. » »« Mais ensuite ?»« Oh, ensuite, on révisera le jugement. » Ou bien, sur de nouveaux faits, on renverra l'affaire à une autre cour. Ou bien encore, on reviendra sur le recours qui a été repoussé et grâce pleine et entière sera accordée à Loriot. Dans les circonstances de cette affaire, la grâce équivaudrait à une réhabilitation. Allez, monsieur Consola, Partez vite, ne perdez pas une minute. Faut-il que je vous accompagne? Auriez-vous besoin de moi?
Peut-être, oui, comme vous avez été témoin du crime, le procureur général, qui vous a entendu une fois, voudra sans doute vous interroger de nouveau afin de s'assurer si vos renseignements concordent avec les détails donnés par votre mère.
Alors toujours le doute, toujours. Il le faut, hélas.
Mais cette fois, ayez confiance, je ne vous quitterai pas. Ils avaient oublié Justine. Tout à coup, ils se retournèrent et Nabot eut un geste d'effroi. La vieille, affaissée, était à demi tombée, les mains pendantes, inerte, pliée en deux, la tête portant sur un bras du fauteuil.
« Morte !» dit Denise. « Ma mère est morte !»
Elle se précipita vers Justine. Consola, prit la vieille dans ses bras, la redressa, mais ce n'était plus qu'une masse qui s'abandonnait sans vie. Denise à genoux priait. Elle sanglotait.
« Mais c'est moi qui l'ai tuée. Ma mère, peut-être m'avez-vous maudite. Mais répondez-moi, dites-moi un mot seulement. »
Mais c'était fini de la paralytique. À ce moment, Trémolo entra dans la boucherie. « Allez chercher le docteur Valot, » lui dit le commissaire. Trémolo ne demanda pas d'explication et partit. Elle avait compris d'un coup d'œil. 5 minutes après, Valot arrivait. Il ne put que constater la mort. « Mon enfant, » dit le commissaire de police, qui conservait son sang-froid au milieu de la tristesse de cette lugubre scène, « mon enfant, ne vous laissez pas abattre par le désespoir. Songez à votre frère qui attend. Soyez forte. Oubliez votre mère pour quelques heures. Vous reviendrez ensuite et vous prierez. » Nabot se leva, essuya ses larmes et dit simplement « Je vous suis, monsieur Consola. » Et pendant qu'il partait, accompagné par le docteur Valot, le petit Pierre, accouru au dernier moment, reculait, effrayé, les yeux grands ouverts devant la figure décomposée de la vieille Justine, et Trémolo, allumant 2 chandelles dans des chandeliers de cuivre, ouvrait un livre de messe et, à genoux, dans un coin, récitait les prières des morts. Consola et Nabot firent le trajet de Meudon à Paris sans s'adresser une seule fois la parole, sans prononcer un mot. Denise, accablée par tous ces malheurs qui fondaient sur elle, sentait que son courage et ses forces étaient au bout, et que, s'il avait fallu vivre encore 2 jours dans des transes aussi terribles, elle serait morte à la peine. Consola, non plus, ne disait rien. Il était grave et soucieux. Sa figure, depuis 1 heure, semblait vieillie, et il avait les yeux éteints. Visiblement, cet honnête homme souffrait. Déjà, ce n'était plus pour lui une question d'amour-propre. De son orgueil et de sa vanité blessée, il ne se souvenait pas. Mais cette révélation de la mère Loriot l'avait atteint jusqu'au plus profond de son cœur. À ses yeux, maintenant, son honnêteté et son intégrité de magistrat étaient diminuées. Il avait blessé la justice. Et quel effroyable malheur il avait été sur le point de causer. Ce n'était pas sa faute, pourtant. Tout autre que lui eût été abusé. Et le juge d'instruction lui-même, qui ne pouvait se contenter de la procédure préparatoire du commissaire de police, n'avait-il pas été trompé? Mais cela n'effaçait pas la faute commise. Il se sentait humilié et il était presque peureux. « Ah, si j'arrive trop tard, si je ne peux pas sauver Loriot, murmura-t-il, il ne me restera plus qu'à me faire sauter la cervelle. » Il était 8h30 quand le train s'arrêta.
Nous allons directement chez le procureur général, dit-il. L'ordre d'exécution a été envoyé par lui en triple. Au directeur de la prison de la Grande Broquette, au préfet de police qui doit assurer le service d'ordre, et au bourreau. C'est le procureur général seul qui peut donner l'ordre de suspendre l'exécution. Et cet ordre devra être également communiqué au directeur de la Roquette, au préfet de police et au bourreau. Et si M. de Ferrand est absent de Paris? Le commissaire de police frissonna. Oh, alors, dit-il, je ne sais pas ce qui arriverait. Mais qui assiste à l'exécution? Le procureur de la République, le chef de la police de sûreté, le commissaire de police du quartier, l'abbé Croze. Mais à défaut du procureur général, ne pourrait-il pas? Ils ne peuvent rien. L'ordre passe au-dessus d'eux. C'est la loi. Tous deux se turent. Les pensées qui leur venaient étaient si épouvantables qu'ils n'osaient pas les pousser plus loin. En causant, ils étaient sortis de la gare. Ils avaient pris un fiacre. 20 francs, si vous allez ventre à terre, avait dit Consola. Le cocher cingla sa rosse d'un coup de fouet à tour de bras. « Nom d'un pétard bourgeois, craignez rien. Je vais lui en des coudes sur le dos. Hé, hurlette !» Et le fiacre partit, brûlant les pavés. Le cocher avait envie de gagner l'aubaine, car il allait d'un train d'enfer. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que le fiacre s'arrêtait rue Gay-Lussac au numéro indiqué par Consola. Celui-ci sauta hors de la voiture. « Restez ici, » dit-il à Denise. « Je vous ferai monter s'il y a lieu. » Il grimpa l'escalier en courant. 1 minute après, il redescendit, pâle comme un mort. Nabot eut un cri d'angoisse. Elle comprenait. « Oh, monsieur de Ferrand n'est pas chez lui. »« Non. »« Mais où est-il ?»« Parti pour Meaux, où il va chasser. »« Oh, c'est fini, Dieu nous abandonne. » Et Denise, s'affaissant sur le coussin de la voiture, perdit connaissance. Mais le commissaire avait conservé tout son sang-froid. « Monsieur de Ferrand vient de partir, dit-il. Il doit prendre la gare de l'Est, le train de 9h05. Il est 9h15. Oh, j'ai 20 minutes devant moi, cela suffit. » Et le cocher, qui attendait sur son siège, laissant souffler sa bête. 20 francs de plus si vous arrivez à la gare de l'Est avant 9 heures. Vous entendez? Au tonnerre, je crois bien. Hu! Le fiacre repartit du même train. Et le cocher murmurait. Au nom d'un pétard, 40 francs, c'est plus que de vos rosettes. Surtout de la ligne du boulevard Saint-Michel, des gens s'arrêtèrent en croyant le cheval emporté. Puis, comme le cocher fouettait Rosette de toutes ses forces, sans relâche, on crut qu'il était ivre, et des bandes d'étudiantes, qui montaient allant de brasserie en brasserie, l'interpellèrent avec de grands cris. Il ne répondit rien, ne se retourna même pas. Les secousses de la voiture appelèrent Nabot à elle. Elle rouvrit les yeux. « Mais où sommes-nous » dit-elle. « Où allons-nous ? » « Nous allons à la gare de l'Est. » Et comme elle l'interrogeait des yeux, n'ayant pas la force de parler, « Oui, peut-être rencontrerons-nous Monsieur de Ferrand. Peut-être ne sera-t-il pas parti. Il n'est pas encore 9 heures et le départ du train est à 9h05. » Un peu de sang, une rosée fugitive colora les joues de Denise. C'était la dernière espérance qui lui venait. Le fiacre traversa 2 fois la Seine, passa devant la tour Saint-Jacques, enfila le boulevard Sébastopol. Consola gardait les yeux fixés sur sa montre et de temps en temps se penchait à la portière et consultait l'heure à la lumière rouge de la lanterne de leur fiacre. La voiture allait le même train. « Nous avons encore 8 minutes, » dit le commissaire. On traversa une longue traînée de lumière et de becs de gaz. C'étaient les grands boulevards. « Nous approchons, courage !» dit Constola. Soudain, à peu près en face de l'Eldorado, la voiture s'arrêta brusquement et le cocher laissa échapper un effroyable juron. Le cheval venait de s'abattre. Consola eut un geste de désespoir. Puis, brusquement, il ouvrit la portière, jeta 2 louis au cocher, prit Nabot dans ses bras et, arrêtant un fiacre qui flânait, s'y précipita. « Garde l'Est avant 9 heures » cria-t-il. L'épouvante étreignait à la gorge et sa voix était enrouée. Nabot, demi-morte, murmurait. « Non, Dieu n'est pas avec nous, vous le voyez bien, Dieu n'est pas avec nous. » Ils arrivèrent. Le fiacre passait la grille de la cour qui précède la gare et s'arrêtait devant les marches. « Attendez-moi, dit Consola, vous me retarderiez. Et d'une minute de retard dépend la vie de Loriot. Ne vous occupez pas de moi, fit Nabot. » Consola avait franchi les marches et disparaissait dans la salle des pas perdus. Alors elle aussi quitta le fiacre et péniblement monta. « Bon, je le suivrai. J'aurai pas le courage d'attendre. » Le commissaire de police s'était précipité au guichet. « Le train pour Meaux. Il va partir, monsieur, dépêchez-vous. »« Encore combien de temps ?»« 3 minutes, quelle place ?»« Une première. Voici, mais dépêchez-vous. » Consola jeta 10 francs à la buraliste et se sauva. « Monsieur, monsieur, votre monnaie !» cria celle-ci, mais il n'entendait pas. Il passa comme un éclair devant l'employé posté à la poste de la porte d'attente et qui courut après lui en criant « Monsieur, votre billet !» Il le montra de loin sans s'arrêter. Dans la salle d'attente, personne. Les portes donnant sur le débarcadère étaient encore ouvertes, mais un employé se tenait là, une main sur la barre, prêt à fermer, jetant dans la salle et le couloir un dernier coup d'œil. « Les voyageurs pour Lagny, Meaux, Château-Thierry, Épernay, Reims et la ligne des Ardennes, en voiture !» Et comme le commissaire passait, « Dépêchons-nous, monsieur, dépêchons-nous !» Le train s'alignait sur la voie. À ce moment, un employé passait, fermant les portes, qui retentissaient avec un bruit sourd, suivi aussitôt d'un bruit plus clair, celui des crochets de cuivre qui retombaient. De loin, tout au bout du train, quelqu'un qui se tenait auprès de la locomotive, un sifflet à la bouche, lui cria, et ce cri résonnant sous la marquise vitrée de la gare avait des sonorités profondes. « En voiture, monsieur, en voiture !» Un journalier passait avec son pantalon noir, son blouson bleu très court et sa casquette à visière vernie. Il traînait une brouette d'un air harassé. « Les premières ?» demanda Consola. « En avant, dit l'ouvrier, tout à fait en avant. » Et comme Consola se mettait à courir, « Ah ben, il arrive à temps, celui-là. Ben, il a de la veine. » Arrivé au wagon, le commissaire sauta sur le marchepied et successivement, d'un geste saccadé, se mit à ouvrir les portières. Dans le premier compartiment, il n'y avait que des femmes. Dans le second, des gens qu'il ne connaissait pas. Dans le troisième, personne. Il y avait un deuxième wagon. Il y passa, il avait les lèvres sèches et sa poitrine sifflait. Un employé accourut. « Monsieur, il y a de la place ici, qu'est-ce que vous cherchez? Le train va partir sans vous. » Consola n'entendait pas. L'employé dit « C'est un fou. Avez-vous un billet ?»« Oui. Montrez, le voici. » « Eh bien, entrez là. Non, non, je cherche. » Et tout à coup, il poussa un cri de joie, un cri étranglé. «
Monsieur de Ferrand, monsieur de Ferrand. » C'était le procureur général, en effet. Seul, dans son compartiment et tranquillement assis dans un coin, il fumait un cigare, sa couverture étalée sur ses genoux. Au-dessus de lui, il avait installé son bagage de chasseur, le fusil dans sa gaine de cuir, le filet, la casquette, à côté d'une valise qui renfermait ses munitions et des vêtements de chasse. En s'entendant appeler ainsi, à la vue de cet homme pâle qui se dressait à la porte, il se leva brusquement. « Monsieur le Ferrand, c'est moi, » dit-il. « Mais que se passe-t-il donc ?» Et par le vasistas, il jeta son cigare. Consola d'une voix étranglée. « Oh, je suis le commissaire de police de Meudon. »« Monsieur Consola ?»« Oui, eh bien, au nom du ciel, monsieur le procureur général, si vous ne voulez pas que je me jette sous les roues des wagons, veuillez descendre et ne pas aller à mot. » Mais permettez, sur ma vie, monsieur le Ferrand, sur ma vie, je vous le demande. » Cependant, à ce moment, retentit le sifflet de la locomotive. Consola joignit les mains. Mais sa figure était si terrifiée, ses yeux agrandis occupaient une telle épouvante, que le procureur général, ne réfléchissant plus, prit à la hâte son fusil et sa valise, jeta le tout au commissaire de police et descendit. Il était temps. Quand il sauta du marchepied, le train était en marche. Il trébucha et ce fut Consola qui l'empêcha de rouler sous les roues du wagon. L'employé, qui pendant cette étrange scène ne les avait pas perdus de vue un seul instant, s'approcha d'eux et avec colère. « Vous mériteriez tous les deux que je vous flante un procès verbal. Ah, si un autre que moi vous avez vu et que mon chef eût été averti, j'aurais déjà perdu ma place. » Et il allait continuer, mais Consola l'interrompit. « Je suis commissaire de police et monsieur est le procureur général de la République, » dit-il. Mais l'employé s'inclina et s'éloigna. Il grommelait toujours. « Oh, commissaire ou procureur, qu'est-ce que cela peut faire? Le tailleur n'est pas regardé à deux fois avant de leur couper les jambes. Il n'aurait pas demandé leur extrait de naissance, pour sûr. » Monsieur de Ferrand semblait très contrarié. Il aimait la chasse avec passion, et quand ses occupations le lui permettaient, il quittait Paris bien vite pour aller près de Meaux, où il avait des propriétés et des forêts giboyeuses, se livrer à son passe-temps favori. Consola venait de déranger brusquement cette partie de plaisir, et monsieur de Ferrand, qui avait obéi d'instinct à la supplication de son inférieur, ne savait même pas encore ce qu'il voulait. « Enfin, monsieur, m'expliquerez-vous ce mystère ? » dit-il avec une certaine vivacité dans la voix. « Monsieur le procureur général, le boucher de Meudon, dont l'exécution est ordonnée pour demain, est innocent. » Monsieur de Ferrand eut un geste de colère. « Monsieur, dit-il, vous oubliez à qui vous parlez. » Et tout à coup, pris de regret sans doute, son regard chercha au loin les derniers flocons de fumée du train qui disparaissaient. Évidemment, il était furieux de s'être dérangé. Et il dit, « Ah oui, vous avez vu la sœur de Loriot. Ouais, une brave enfant, mais un peu folle, qui vous a raconté des sornettes. Et vous avez été pris à ses paroles. » « Comme un simple débutant. Je vous fais pas mon compliment, monsieur. » Mais Consola ne se laissait pas décontenancer. Il était trop sûr de lui et du grave devoir qu'il remplissait. Il répliqua avec fermeté. « Monsieur le procureur général, je ne suis pas un débutant. Je viens vous empêcher de laisser s'accomplir un grand malheur. » Que je me reprocherais moi-même toute ma vie comme un crime,
dont j'aurais été le complice. Mais de quoi voulez-vous parler? Mais de l'exécution de Loriot. Et que savez-vous? Mais le boucher est innocent. Mais quel est le coupable? Sa mère. Monsieur de Ferrand eut un geste d'impatience. Des preuves, demanda-t-il. Mais je les ai. Et où? De quelle nature sont-elles? Je les ai apportées avec moi. Elles sont de nature à me laisser aucun doute. Si monsieur le procureur général veut m'entendre, me permettre de lui raconter. Monsieur de Ferrand était perplexe. L'énergie du commissaire de police l'avait surpris. Il était tout soucieux. Pesez bien vos paroles, monsieur Consola, dit-il. Tout ce que vous allez me dire a une gravité exceptionnelle. Ils étaient rentrés dans la salle des pas perdus. Ils se promenaient là, de long en large, sans faire attention à une petite fille à figure pâle et souffreteuse, accroupie sur un banc dans un coin, et qui les suivait de ses grands yeux noirs anxieux. C'était Denise. « La vie de mon frère est en question, » murmura-t-elle. Et toutes les prières qu'elle savait et qu'on lui avait apprises quand elle était petite montaient à ses lèvres. Consola s'était mise à raconter à M. de Ferrand les scènes qui venaient de se passer à la boucherie et que nos lecteurs connaissent. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans son récit, le procureur général se troublait. « Vous avez la lecture par laquelle Justine Loriot s'accuse ?» demanda-t-il en tendant la main. « Oui, la voici. » Il la lut, puis s'essuya le front. Oh, déjà l'homme était convaincu. Mais le magistrat résistait encore. Il eut un court dialogue haché nerveux. Mais qui prouve que ce n'est pas un piège? La lettre est authentique. Vous connaissez l'écriture de Justine Loriot? Oui, c'est une grosse écriture anguleuse qu'il est impossible de contrefaire. Aussi longtemps, surtout. Mais si elle a écrit pour sauver son fils? Bon, non, les détails sont trop précis. L'histoire du fermier Gilibert est là, qui explique la haine de Justine pour Charlotte. Mais cette histoire est peut-être un roman. Il est facile de nous en assurer. J'irai moi-même dès demain, s'il le faut, au village des Quatre Chemins. La paralysie de cette femme n'est-elle pas feinte? Oh non! Oh, qui le prouve? Il y a des exemples. Justine Loriot est morte. Le procureur général eut un frisson et se tut. Denise venait de s'approcher timidement, mais les deux hommes, très absorbés, ne faisaient pas attention à elle. Elle dit d'une voix tremblante, « Monsieur le procureur !» Alors il l'aperçut et la regarda longuement. Puis, « Pauvre enfant, comme vous avez dû souffrir !» Elle éclata en sanglots, mais le procureur et le commissaire de police eux-mêmes sentaient un petit tremblement au coin de leurs lèvres. Un long silence suivit. À la fin, « Retournez auprès de votre mère, mademoiselle, » dit M. de Ferrand. « Je vais faire suspendre l'exécution de Loriot. Demain, venez me trouver chez moi. Je vous attendrai. Nous irons ensemble à la roquette et vous verrez votre frère. »
« Il est sauvé, n'est-ce pas? Bientôt, il sera libre. »«
Bientôt, oui, mon enfant. » Demain, je quitterai Paris et j'irai à la forêt trouver le président de la République. Loriot aura sa grâce pleine et entière. C'est le seul moyen de l'arracher à la prison et à la mort. Un deuxième jugement n'est pas possible. Et après une condamnation capitale, la loi ne réhabilite pas. Allez, mon enfant, ne craignez rien. Consola reconduisit Nabote jusqu'au fiacre qui attendait. Il donna au cocher l'adresse de la gare Montparnasse et revint au procureur général qui était monté dans une autre voiture.
Monsieur Consola, j'ai besoin de vous.
Je suis à vos ordres, monsieur le procureur général.
Où est-ce que nous allons, bourgeois ? Demanda le cocher. Au palais de justice, d'abord, à la préfecture de police, et à la grande requête ensuite.
Oh, là, une étape, grommela le cocher.
Et lourdement, le fiacre s'ébranla.
Loriot était sauvé.
Le lendemain, Nabot, accompagné du procureur général, arrivait à la requête. On les fit passer au greffe, et un surveillant alla chercher Loriot, qui était toujours dans la même cellule. Quelques instants après, le boucher entra. Ce n'était plus le même. Sa figure loyale, qui était jadis si grosse et si rouge, semblait maintenant comme meurtrie. Les brillantes couleurs de la santé et de la bonne humeur étaient remplacées par une teinte jaune et les yeux plissés étaient rouges. Quand il aperçut Denise, son émotion fut telle qu'il resta comme interdit, puis tomba sur une chaise.
« Oh mon Dieu, dit-il, mais pourquoi l'as-tu amené ?»
Et brisé, il n'avait pas la force de faire un pas. Ce fut Nabot qui vint à lui, pleurant et souriant. Il lui tendit les bras, elle s'y jeta, et il la mit sur ses genoux, comme il avait l'habitude de faire autrefois, afin d'être plus à l'aise pour l'embrasser. Ce fut une scène muette. Tous les deux pleuraient et s'embrassaient, et se regardaient les yeux dans les yeux, avec une sorte de folie, sans trouver un mot. Au bout d'un instant, le procureur intervint. « Mademoiselle Denise, fit-il, pourquoi n'annoncez-vous pas vous-même à votre frère la bonne nouvelle que je venais de lui apprendre? Il est mort à mieux, j'en suis assuré, l'entendre de votre bouche que de la mienne. »
Loriot s'était levé, tenant Nabot par la main et regardant le procureur général qui n'avait pas aperçu.
« Qu'est-ce donc ? » dit-il. « Jacques, prends patience. Dans 2 ou 3 jours, tu seras libre. La vérité est connue.
Ma mère ?
Oui, elle a tout dit. Ah ! »
Il s'assit de nouveau et prit sa tête entre ses mains. Il avait sur les lèvres une question qu'il n'osait faire. Je vis d'une voix tremblante qu'il demanda
« Et elle, que va-t-il lui arriver? Que va-t-elle devenir ?»
Et Denise, très bas,
« Dieu s'est chargé de la punir. Elle est morte.
Morte ?»
Et tout à coup, il eut une révolte et serrant les poings.
« Ah, quelle misère! Quelle misère! Mais qu'est-ce que nous avons donc fait, Denise, pour être aussi malheureux ?»
Elle ne voulut pas le laisser à ce désespoir. Elle se remit sur ses genoux et lui enlaçant le cou entre ses deux bras, dans un geste qui lui était familier.
« Songe, dit-elle, que je t'aime tant, moi, je te reste et je te tiendrai lieu de tout. Il ne faut pas trop pleurer parce que cela me décourage, je suis déjà si malade. Songe qu'au monde je n'ai que toi, cela te donnera de l'énergie. » J'en ai bien, moi, qui suis si faible. Tu ne peux pas te laisser mourir maintenant. Qu'est-ce que je deviendrai, moi? Tu veux donc que je mendie mon pain quand tu ne seras plus là?
Et comme il relevait peu à peu la tête, avec une lueur dans les yeux, en entendant ces paroles d'une infinie tendresse,
« Ah! Te souviens-tu comme tu me protégeais? Toi qui étais si fort? Quand j'étais toute petite, te souviens-tu des jouets dont tu te privais pour me les donner et que ma mère me reprenait souvent pour te les rendre? Et ceux que tu m'achetais en secret sur les économies faites sou à sou? Tu te rappelles donc plus rien de ce temps-là? Tu n'aimes donc plus la pauvre Denise, infirme et malade, que tu as tant soignée jadis? Est-ce vrai? »
Brusquement, Loriot l'embrassa à plusieurs reprises.
Ah, tu es une bonne petite fille. Tu vaux mieux que moi. » Ils s'entretinrent encore longtemps de cette façon. Elle, voulant savoir comment il avait vécu depuis ces mois de souffrance pendant lesquels ils avaient été séparés, et lui, oubliant ce qu'il avait souffert, pour ne plus s'informer que d'elle. Puis le procureur général les invita à se quitter, disant à Loriot que le lendemain, Nabot viendrait le revoir. Et le lendemain, en effet, Denise le revit. Enfin, 3 jours après, Loriot, gracié, quittait la prison de la Grande Roquette. En se retrouvant libre après tant de cruels tourments, il respirait avec délices comme s'il sortait d'une longue maladie. Sa poitrine semblait s'élargir, et sous la peau jaunie de son visage, un peu de rouge monta. « Comme c'est bon l'air !» dit le brave garçon. « Ah, comme on sent vivre !» Le soir, ils rentrèrent à Meudon. Presque aussitôt, Jacques se remit au travail. Mais les clients ne connaissaient plus le chemin de la boucherie, jadis si achalandé. Loriot s'en aperçut. Il s'en ouvrit un matin à Nabot. « Est-ce que ça te ferait quelque chose de quitter Meudon ?» demanda-t-il, tout en découpant un mouton sur l'étal. « Oh non, dit-elle, oh non, au contraire !»« Et la France, reprit-il après quelques instants de silence, est-ce que ça te ferait du chagrin de la quitter ?»«
J'irai partout où tu voudras. »«
L'Amérique ne t'effraie pas ?»«
Mon Dieu, non, pourquoi ?»«
C'est que j'ai envie d'aller en Amérique. »« Là seulement nous serons tranquilles, et il n'y aura personne pour me reprocher un crime » que je n'ai pas commis.
Pauvre frère, je te comprends.
Oh, on a beau être innocent, vois-tu, Denise. En France, quand on a été condamné, il vous en reste toujours du déshonneur.
Eh bien, partons.
Oui, et le plus tôt possible. Du reste, nous ne sommes pas pauvres. J'ai des billets de 1 000 francs d'économie. Nous avons de l'or, je connais le métier de boucher sur le bout du pouce. Oh, c'est bien le diable si je ne trouverais pas du travail à New York en arrivant, et si plus tard je ne réussissais pas à m'établir à mon compte. Et après un silence, il ajouta, et pour que tu aies un ami là-bas, je demanderai à la mère du petit Pierre de me laisser son fils. Elle acceptera volontiers, j'en suis certain. Le petit Pierre est robuste et intelligent. J'en ferai un bon ouvrier.
Oh, c'est cela, dit Nabot. Et nous partirons. Nous partirons tout de suite.
Quelques jours après la rentrée de Jacques Loriot à Meudon, Trémolo, que le boucher avait récompensé généreusement de tous ses soins, rencontra le commissaire de police.
Eh bien, monsieur Colonsa, dit-elle, voilà Loriot revenu. Oui, mère Trémolo, j'en suis aussi content que vous pouvez l'être vous-même.
N'en doute pas, fit la revendeuse avec un sourire goguenard.
Mais dites-moi, après ce qu'il a souffert, je suppose bien que la société, quand vous êtes la justice, et la justice représente la société, n'est-ce pas, monsieur le commissaire, je suppose bien que la société va lui donner une bonne indemnité à ce pauvre Loriot. Outre qu'il n'a pas volé, savez-vous qu'il a perdu toute sa clientèle ?
Monsieur Consola secoua la tête.
« Oh non, je ne crois pas, dit-il. Rien, mais là, rien, paradis. Ah non, c'est la loi !»